Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos de la Microsoft Virtual Academy intitulée Windows 10, quoi de neuf pour les développeurs. Je m'appelle Alex Danville, je suis Technical Evangelist chez Microsoft, avec comme sujet de prédilection l'Internet of Things et puis le cross-platform. Mon rôle chez Microsoft est d'accompagner tous ceux qui veulent créer des solutions sur nos plateformes, faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible, leur expliquer quelles sont les possibilités, où est-ce que Microsoft va sur tel ou tel domaine, et faire en sorte qu'ils aient la possibilité de créer les meilleures solutions possibles, les plus pertinentes et le plus vite possible. Alors vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog danvi.tv et puis interagir avec moi sur Twitter. J'aurai grand plaisir à tenir compte de vos feedbacks et à préciser un certain nombre de choses que je n'aurais pas dites éventuellement dans ces vidéos. Pour suivre cette vidéo et pouvoir refaire l'exercice chez vous tranquillement, il vous faudra un PC avec Windows 10 Technical Preview en build minimum 10041. J'utiliserai personnellement la version 10061. Il vous faudra aussi le Visual Studio 2015 Technical Preview en version 6, donc c'est la sixième CTP comme on dit. Et puis enfin, il faut rajouter par-dessus cela les Windows 10 Technical Preview Tools qui vous permettront d'avoir accès au SDK complet de Windows 10. Enfin, sachez que comme nous irons assez vite sur certaines parties, il faudra savoir un peu manipuler Visual Studio et puis avoir des connaissances en C Sharp XAML. Vous retrouverez d'ailleurs des cours dédiés à ces deux sujets sur la Microsoft Virtual Academy, donc n'hésitez pas à faire en préalable à cette série de vidéos dédiées à Windows 10 des cours sur la partie Visual Studio C Sharp XAML. Cette série Windows 10 Quoi de neuf pour les développeurs se décompose en 6 modules distincts. Nous avons déjà vu plateforme et outils qui nous a permis de bien poser le contexte de ce qu'apportait Windows 10 et sa plateforme. Ensuite, nous avons travaillé sur l'anatomie d'une application, comment est-ce qu'il faut les architecturer, comment elles s'organisent. Puis ensuite, nous avons travaillé avec deux modules sur les nouveaux contrôles les plus significatifs et puis ceux qui nous permettent d'aborder un design adaptatif, donc qui nous permettent d'adresser l'ensemble des tailles d'écran. Et maintenant, il vient temps de parler du cinquième module, à savoir la communication entre applications, sur lequel Windows 10 a énormément progressé. Donc première possibilité, le launch folder, donc la capacité à ouvrir un dossier présent sur votre disque depuis une application. Alors là, le concept est extrêmement simple. Vous avez une application, vous souhaitez donner la main à l'utilisateur pour qu'il explore les fichiers qui se trouvent dans un dossier particulier. Exemple très concret, vous avez une application qui génère par exemple des images ou des vidéos. Et vous souhaitez faire en sorte que l'utilisateur puisse accéder aux résultats produits par votre application que vous auriez déposé dans un de ces répertoires. Donc voyons ensemble comment ça va fonctionner très concrètement à l'aide de quelques lignes de code. Nous voici dans Visual Studio 2015, toujours avec le projet Win10 Demo. Je vais aller dans la page qui s'appelle Launcher View. Alors, il n'y a pas grand-chose de très intéressant côté visuel, vous voyez simplement quelques boutons qui nous permettent de mettre en œuvre les différentes façons de communiquer entre applications. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le code qu'il y a derrière. Donc voyons le premier exemple, celui qui nous intéresse, à savoir être capable d'ouvrir un répertoire avec l'explorateur depuis notre application. Alors comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Vous avez ici une classe Launcher qui vous donne accès à des méthodes. En l'occurrence ici, c'est le Launch Folder Async qui nous intéresse, puisque ce Launch Folder Async nous permet de prendre en paramètre ici un répertoire. Alors notez que vous avez une classe qui vous permet de lister les répertoires connus du système. Et voyez sur la liste, il y a par exemple le répertoire dans lequel les applications génèrent les photos, les documents, éventuellement les serveurs médias, les musiques, les vidéos, les images, et j'en passe. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est le répertoire des images qui nous intéresse. Et alors, la particularité de cette méthode, c'est d'être capable de prendre des options aux paramètres. Et parmi ces options, il y en a une qui peut être intéressante, qui est la Desired Remaining View, qui nous permet de définir quelle place est-ce qu'il doit rester à notre application lorsqu'on affiche l'explorateur de fichiers. Donc, ici, voici les différentes options. Il y en a une autre qui peut être intéressante, c'est de présélectionner des items dans ce répertoire. Imaginez que vous ayez généré un traitement sur une image, vous souhaitez que l'utilisateur puisse accéder à cette image depuis l'explorateur de fichiers pour par exemple faire une copie ou continuer son process de traitement d'image avec d'autres applications. Vous avez ici la possibilité non seulement d'ouvrir le répertoire qui contient l'image, mais en plus de présélectionner l'image qui vient d'être générée. Deuxième exemple de communication entre applications qui a été passablement amélioré sur Windows 10, le launchery et les settings. Donc, le cas est le suivant, vous avez deux applications, vous souhaitez faire en sorte qu'une application communique avec une autre en lui transmettant un jeu de données, symbolisé ici par les trois carrés verts. Autre possibilité, avec la même API, vous pouvez faire en sorte de lancer les settings de votre système sur une page bien particulière. Donc nous allons voir des exemples ensemble avec une démonstration. Nous retrouvons ici notre projet fétiche Windows 10 démo dans Visual Studio 2015 et nous allons nous focaliser sur donc une autre API qui s'appelle le Launchery Async. Alors cette API prend en paramètre donc ici une URI. Notez que pour afficher les settings, j'ai fait en sorte d'utiliser ici une URI avec un protocole bien précis. Regardez ce protocole, le MS-Settings, qui prend ensuite derrière un certain nombre de paramètres. Alors vous trouverez le détail de ces paramètres sur cette page-là. Nous allons regarder ensemble, vous verrez que il y a quelques évolutions, il y a plus de paramètres en fait qui sont disponibles maintenant que sur les versions précédentes. Donc, vous voyez ici une colonne dans laquelle on voit les nouveautés sur Windows 10 et puis l'équivalent que l'on pouvait faire sur Windows Phone. Et maintenant que les OS ont été unifiés et les plateformes aussi, ça veut dire que ce qui est disponible dans la colonne Windows 10 fonctionnera aussi bien sur Windows Phone que sur Windows classique. Voilà, donc on voit qu'on a accès à l'ensemble des pages des settings, ce qui est quand même extrêmement pratique. La suite de notre découverte des fonctionnalités de communication entre applications avec le Launchery for Result, en gros, la capacité d'une application à lancer une autre application et à attendre que cette application appelée nous retourne un résultat. Donc le scénario est le suivant, j'ai deux applications, une première application qui appelle une deuxième application, l'application B, qui peut lui transmettre un certain nombre de paramètres, symbolisés ici par des carrés verts, et cette application B, après traitement, peut retourner un résultat symbolisé ici par des ronds bleus. Donc voyons ensemble comment ça se met en œuvre et quels bénéfices on peut en tirer. Retour sur notre projet de démo. Ici, nous allons voir l'API LaunchUri for Result. Donc celle-ci s'appuie sur la communication avec protocole personnalisé. Donc le protocole personnalisé, ça ressemble à ça. Là, en l'occurrence, c'est un Win10 Demo 2. De point slash slash, donc vous connaissez parfaitement le HTTP de point slash slash qui ouvre le browser. Là, c'est le même concept. J'ai défini ici un identifiant de protocole et puis tout ce qui sera derrière sera passé à l'application qui sera appelée. Maintenant, comment définir ce protocole? Écoutez, c'est extrêmement simple. J'ai créé une autre application, un projet très modeste, dans lequel j'ai défini le custom protocole à l'intérieur du manifeste de l'application. Regardez, j'ai une section qui lui est dédiée. Ici, dans les extensions, j'ai donc bien un protocole qui sera défini, donc un Windows Protocol ici. Et je lui donne un identifiant. Je lui indique si oui ou non il va retourner des résultats. En l'occurrence, optionnellement, il peut en retourner. Et puis pour que il soit clairement identifié pour l'utilisateur final, je vais lui indiquer un logo et un nom en clair. En effet, une application peut très bien supporter un protocole, mais ne pas être le seul à le faire. Et de ce fait, je peux me retrouver à devoir faire un choix, à dire, eh bien voilà, pour ouvrir tel fichier ou pour ouvrir tel protocole, je souhaite utiliser une des applications disponibles sur mon système. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai envie d'ouvrir une application précisément? Eh bien, c'est ce que je vais mettre en œuvre ici avec des API nouvelles qui me permettent de demander au système si il y a bien une application qui supporte un protocole précisément. Donc là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a une application qui supporte le Windows Demo 2? Oui, puisque j'en ai créé une juste avant. Mais en plus de cela, j'aimerais savoir si c'est une application précisément. Et pour cela, je vais l'identifier à l'aide de son package family. Alors ce package family, c'est une chaîne qui ressemble à ça, un identifiant. Pas facile de le trouver, mais j'ai une astuce. Vous pouvez utiliser une API qui vous le renverra. Donc en l'occurrence, dans le projet Winten Demo, vous trouverez une page dans laquelle je fais un certain nombre de tests, j'expérimente, tel que vous pourrez le faire. Et à la fin, normalement, voilà ici, j'écris dans la console quel est l'identifiant du package sur lequel l'application s'exécute. Donc en fait, il faut faire un Windows Application Model Package Current pour obtenir le package courant correspondant à l'application, puis les identifiants, et là, parmi les identifiants, dans lequel je vais retrouver le full name, le nom de l'application, son identifiant autre, je vais retrouver le family name. Et c'est ce family name qui va nous intéresser pour cette API-là. Donc une fois que je lui ai donné ça, le système à l'exécution du query URI support async, à ce moment-là, va me renvoyer un résultat qui me dira si oui ou non le système supporte ou a bien cette application installée. Ensuite, j'ai la possibilité de fournir des options, parmi lesquelles, à savoir quelle application je vais lancer précisément. C'est donc le même package ici. Et puis, je vais pouvoir fournir des paramètres. Et ces paramètres sont donnés de façon relativement structurée, à savoir ici un value set. C'est une sorte de dictionnaire qui contiendra des paires clés-valeurs. Donc je lui donne ici en exemple un Twitter ID et je lui donne le Twitter ID qui m'intéresse. Et cet ensemble de value sets sera passé à l'application appelée. Ensuite, j'appelle l'API qui nous intéresse principalement, à savoir le Launch Query for Results Async, en lui donnant le protocole que je veux lancer, les options en question, savoir que je veux lancer cette application-là, et puis les valeurs que je passe en paramètres. Si tout cela s'est bien fonctionné, mon application appelée, donc la deuxième application, s'est lancée, récupère le résultat, et nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, je vais récupérer les résultats en question, ici, dans le unactivated, ici présent. Donc le unactivated dispose d'un paramètre qui me permet de définir comment a été activée l'application. Là, en l'occurrence, j'ai dans les args un kind qui me dit qu'en effet, ça a été lancé par l'activation d'un protocole avec résultat. Il y a d'autres types hein, que vous pourrez tester qui sont assez nombreux. Est-ce que j'ai été lancé depuis, par exemple, le contact picker ou depuis le lock screen et j'en passe à des meilleurs. Et ceci vous permet de contextualiser le lancement. Donc non seulement je sais quelle est la provenance du lancement, mais en plus je vais pouvoir récupérer un certain nombre de paramètres. Donc là en l'occurrence, je récupère le contexte de lancement, je vérifie que je suis bien appelé par une application précise, ceci me permet un petit peu de cadrer les choses, de dire j'ai deux applications que j'ai développées, je souhaite que seules ces deux applications communiquent ensemble. Et puis ensuite, je vais naviguer vers la page principale en lui donnant ici les arguments qui m'intéressent. J'utilise le Visual Studio pour voir que voilà, cette page est vraiment très basique, juste deux boutons et puis de quoi afficher un texte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir ce que je peux faire dans cette page. Donc sur le onNavigated to, je vais récupérer les paramètres que je viens de passer et je vais les afficher. Je récupère ici le fameux Twitter ID que j'ai passé. Donc, c'est vraiment extrêmement simple de passer des paramètres d'une application à une autre. Maintenant, comment je fais pour renvoyer ces paramètres? Eh bien, là, on a vu que j'avais deux boutons et que un de ces boutons était un bouton OK. Et donc, sur le bouton OK de validation, je vais retourner le résultat. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Je crée un value set, donc vous savez, un dictionnaire de clés et de valeurs. Et puis là, j'ai décidé, oh, avec un, juste pour à titre d'exemple, hein, de renvoyer un timestamp, de savoir quand est-ce que ça s'est passé. Ben, je renvoie le dead time now. Et puis, je vais envoyer une chaîne en indiquant si c'est autorisé ou non. Et en gros, vous voyez que mon protocole d'authentification est extrêmement basique. Je vérifie si la valeur que l'on m'a passée est bien égale à d'envie. Si oui, je considère que c'est autorisé. Et puis ensuite, il me reste une dernière opération à faire, c'est-à-dire à prévenir qu'en effet, j'ai bien fini d'exécuter l'opération que l'on m'a demandé et que je suis prêt à retourner le résultat. Et c'est ce que je fais ici avec le Protocol for Results Operation et je renvoie un report completed avec les nouvelles valeurs. Dans ce cas-là, ça me permet de retourner à la première application, l'application Applante, et je me trouve cette fois-ci ici. Et je vois si j'ai eu un retour avec succès ou sans. Si j'ai eu un retour avec succès, à ce moment-là, dans le result qui m'est renvoyé par le Launch URI for Results Async, je peux récupérer le value set de retour. Donc là, je regarde simplement quelle est la valeur stockée dans Authorize. Authorize. Okay? Donc à partir de ce moment-là, si je considère que c'est à true, je dis que j'ai été autorisé. Imaginez l'ensemble des scénarios que vous pourriez faire avec ça. Vous pouvez créer soit un écosystème d'applications qui communiquent entre elles et découper ainsi vos fonctionnalités. Vous pouvez aussi créer vous-même des API à disposition de tous. C'est vraiment ce que je vous invite à faire pour faire en sorte que votre application soit la plus utilisée, soit une référence dans son domaine. Imaginez une application spécialisée dans le traitement d'images, par exemple. Vous lui passez en paramètre une image, elle permet de faire tous les filtres, tous les traitements que vous souhaitez dessus, et renvoie l'image ainsi modifiée à son appelant. De ce fait, toutes les applications disponibles sur le store pourraient utiliser votre application de référence comme étant la meilleure pour traiter les images, et de ce fait se contenterait d'appeler votre application plutôt que de redévelopper systématiquement la roue. Donc c'est une façon, c'est une nouvelle API qui permet quelque part de créer des API à l'intérieur même de vos applications. Voyons maintenant le Publisher Cache Folder. C'est tout simplement la possibilité de partager un répertoire entre des applications d'un même publisher, d'un même éditeur. Donc imaginez que vous soyez l'auteur de deux applications, ici une application A et une application B. Ces deux applications peuvent avoir besoin d'échanger des données entre elles à l'aide de fichiers. Exemple concret, vous avez des paramètres par exemple, qui me permettent de définir un contexte, des paramètres de fonctionnement d'application, exemple, des paramètres d'authentification, des paramètres qui m'indiquent où se trouvent les serveurs avec lesquels je dois interagir, et ainsi de suite. Pourquoi pas des configurations visuelles de l'application, des préférences personnelles de l'utilisateur. Il était très compliqué de partager ces paramètres entre l'application. Souvent, on se dirigeait vers une solution dans le cloud. On peut faire aujourd'hui beaucoup plus simplement que ça en ayant un répertoire qui sera défini et accessible pour les deux applications. Donc voyons ensemble exactement à quoi ça ressemble. Ici, vous avez sur le poste local un répertoire qui va s'appeler Publisher, dans lequel vous retrouverez un identifiant qui sera spécifique à ce Publisher. Et ensuite, vous créez vous-même des sous-répertoires qui stockeront vos fichiers. Ici, j'ai créé un répertoire shared folder qui contient une shared file.txt. Voyons ensemble le code nécessaire pour mettre en œuvre cette fonctionnalité. Retour dans Visual Studio, toujours notre projet Windows 10 démo. Nous allons voir comment deux applications peuvent échanger le contenu de fichiers. Alors, si on regarde comment cela fonctionne, j'ai ici une première application. Ici l'exemple du launcher, et puis j'ai un texte que je peux écrire dans un fichier. Donc je vais mettre un Hello MBA, et je vais écrire dans ce fichier partagé. Et si tout se passe bien, lorsque je vais exécuter la deuxième application, je devrais retrouver le contenu de ce fichier, donc que je lis en fait au lancement de l'application et que j'affiche sur la première page. Donc cette application se recompile, affiche son contenu et m'affiche ici le Hello MVA. Donc voyons ensemble comment on a réalisé ça. Donc c'est extrêmement simple. Première chose à faire, définir dans le manifeste de chacune de ces applications le fait que nous souhaitions partager un répertoire. Donc je vais ouvrir le manifeste de la première application et voir que dans ce manifeste, je vais avoir ici la possibilité de définir un Publisher Cache Folder ici, donc une extension, et d'indiquer quel sera le nom du répertoire partagé en question. Donc, faites attention au passage, vous trouverez des documentations dans lesquelles il n'y a pas d'S ici au Publisher Cache Folders. Il y a bien un S, sans cela, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous avez besoin de le faire aussi dans la deuxième application, toujours. Exactement le même principe, vous retrouverez ici dans les extensions un Windows Publisher Cache Folder avec les mêmes paramètres. Donc vous pouvez faire un copier-coller d'une application à l'autre. Et à partir du moment où le publisher de votre application est le même, ici, vous voyez le publisher indiqué toujours dans le manifeste, dans la section Identity, je vais retrouver le même publisher dans l'autre application. Ici, voilà. Si vous n'avez pas les mêmes publishers, en fait, Windows va créer deux répertoires différents et ils ne pourront pas communiquer l'un avec l'autre. Pas besoin que l'application soit disponible sur le store pour que cela fonctionne. Il suffit vraiment d'indiquer strictement le même nom de publisher et d'indiquer la section que je vous ai indiquée un peu plus bas pour que le mécanisme se mette en œuvre. Et puis alors, du coup, le code est finalement extrêmement simple puisqu'il nous suffit d'écrire un fichier. Donc pour écrire ce fichier, vous voyez, j'ai un bouton que l'on a vu tout à l'heure qui va récupérer le contenu d'une textbox et l'écrire dans un fichier shared file ici. Ce code, c'est du code comme on l'a toujours écrit, avec une toute petite différence, c'est que je fais appel ici à une API qui s'appelle le Get Publisher Cache Folder. Je lui donne le nom du répertoire que j'ai souhaité partager. Et ensuite, c'est le flow classique pour accéder à des fichiers. Donc, je crée un fichier, je l'ouvre, et puis je récupère son contenu, j'écris dedans, et je referme le tout. Là, j'ai écrit dans mon fichier. De l'autre côté dans l'application, pour le lire, c'est exactement le même principe. Je vais avoir ici la capacité à lire le contenu du répertoire partagé. Donc première chose, j'accède au répertoire partagé avec la même API, Get Publisher Cache Folder, en lui donnant l'identifiant en question. Une fois que j'ai récupéré ce folder, eh bien j'ouvre le fichier qui m'intéresse et puis je lis son contenu. Donc la seule particularité, enfin les deux particularités plutôt, c'est un, il faut indiquer les deux paramètres dans la partie manifeste et le fait qu'on ait le même publisher ID. Et que nous ayons déclaré une section spécifique au partage de fichiers de répertoire. Et puis, deuxième opération, faire appel à cette API, le Get Publisher Cache Folder, qui nous permet de retrouver précisément ce fameux répertoire. Voilà, vous êtes maintenant en capacité de partager des fichiers entre différentes applications d'un même publisher. Donc, dernière fonctionnalité que nous allons explorer aujourd'hui dans les possibilités de communication entre applications sous Windows 10, les App Services. Alors, c'est certainement la fonctionnalité la plus puissante, en tout cas, c'est celle qui vraiment m'intéresse le plus et qui apporte le plus de nouveautés. C'est la capacité donnée aux développeurs, en l'occurrence, de créer de sortes de services un peu à la mode serveur web, qui serait disponible pour l'ensemble des applications. Donc imaginez ici deux applications, une application A et une application B, qui souhaiteraient accéder à un service non visible, mais rendu disponible avec par une autre application qui contiendrait ce service. Donc c'est plus compliqué à expliquer que finalement qu'à faire, Je vais avoir une background task qui exposera un certain nombre de services, et ces services pourront être consommés par les autres applications. Exemple très concret, imaginez par exemple le scénario du scan d'un code barre. Donc j'ai une application qui scanne un code barre, qui contient un code un peu particulier, et donc qui souhaiterait que ce code barre soit décodé par un service. Donc cette application pourrait capturer l'image du code barre, transmettre les images au service de décodage de code barre, qui renverrait la donnée décodée. Ce qui veut dire que ce service très particulier d'exposition de décodage de code barre, qui pourrait être un service de très haute qualité, pourrait être rendu disponible pour l'ensemble des applications du store. Autre exemple, un tout petit peu plus complexe, cette fois-ci, on peut très bien imaginer créer un panel de services auquel une ou plusieurs applications avec lesquelles ces applications pourraient interagir, et de ce fait, de découper le code ainsi, et de favoriser en fait la modularisation de votre application. Donc exemple ici d'une application A qui fait appel à un premier service qui fait du maintien de cache. Donc vous avez besoin d'une ressource particulière, d'un fichier ou autre, vous faites une demande auprès de ce service qui vérifie s'il l'a localement. S'il ne l'a pas, il fait appel à des services dans le cloud et puis comme ça nourrit son cache et renvoie le résultat. Vous pourriez aussi faire des services, par exemple, de communication, disant, voilà, j'ai besoin de faire de la communication de proximité, mais je ne veux pas m'embêter avec la maintenance de ce service. Vous pourriez très bien créer un service dédié à cela. Une nouvelle application se présentant, rien ne lui empêche de réutiliser ces services sans même avoir besoin de recompiler quoi que ce soit, les services étant déployés sur la machine, cette application B bénéficie du même niveau de qualité que l'application A. Alors regardons comment est-ce qu'on développe une app service. Dans Visual Studio 2015, avec le projet Windys Demo, nous allons voir comment créer un app service. Première chose, il nous faut un Windows Runtime Component ici. Regardez le type de projet tout à fait particulier qui me permet de créer des traitements en tâche de fond non visuels auxquels le système pourra accéder. Donc ici j'ai créé juste un fichier C# avec une classe qui est le calculateur service. Notez que cette classe est sealed comme tous les composants Windows Runtime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dériver de cette classe-là, et qu'elle supporte l'interface de iBackgroundTask. Cette interface m'invite à implémenter ici une méthode qui est run avec un contexte d'exécution, le task instance. Donc à partir de là, j'ai un point d'entrée sur mon app service. Donc première chose que j'ai à faire, c'est de récupérer le deferral. Donc là, ça c'est en fait un pattern qui permet de garder un pointeur sur le contexte d'exécution pour lui indiquer un peu plus tard lorsque j'aurai fini de faire mon traitement, ce qui permet au système d'exploitation de savoir que tout se passe bien, que vous avez traité les choses comme il était prévu que ça se fasse, et que il puisse gérer le cycle de vie des applications correctement. J'ai même la possibilité de gérer l'annulation d'une tâche, donc il suffit de m'abonner à cet événement. Si jamais l'utilisateur annule, je vais pouvoir annuler, éventuellement restaurer un contexte qui m'intéresse. Ensuite, je vais récupérer le détail lié à ce trigger, savoir comment ça a été lancé. Et puis, sur ce détail, je vais pouvoir récupérer l'App Service Connection. Donc, c'est ça qui est le point d'entrée de l'App Service finalement, puisque je vais pouvoir m'abonner à un événement qui est Request Received, qui recevra l'ensemble des requêtes faites par les applications vers mon service. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce point d'entrée-là? Donc, même principe, sur une requête, j'ai aussi un referral que je m'empresserai de finaliser dès que je le peux. Et puis, je vais récupérer le message qui m'est envoyé, toujours à travers les args. Donc, sur la requête, j'ai une notion de message. Ce message, je vais vérifier et voir ce qu'il contient. Donc en fait, si ce message contient bien une clé, donc ça c'est un value set, hein, donc s'il contient bien une clé service, c'est moi qui ai décidé de le dénommer comme cela, à ce moment-là, je vérifie de quel type de service il s'agit. Là, il se trouve que j'ai fait un service de calcul, et ce calcul a donc plusieurs verbes possibles, add pour ajouter quelque chose, et sub pour le soustraire. Donc, je vérifie que j'ai un service qui s'appelle add. Si oui, je regarde s'il y a bien deux valeurs dans le dictionnaire qui s'appellent A et B, et je vais donc tout simplement additionner les valeurs de A et de B et renvoyer le résultat dans un value set, encore une fois, de résultats. Donc vraiment extrêmement simple comme exemple. Là, volontairement, j'ai créé un deuxième verbe sub avec toujours A et B et que ça me retourne le résultat. Et puis lorsque j'ai complété le remplissage du value set, donc du dictionnaire clé-valeur que je souhaite renvoyer à l'appelant, je fais tout simplement ici un request send response async, donc de façon asynchrone, et je renvoie les résultats. Une fois que j'ai fait ça, je valide bien le deferral, je lui dis c'est bon, j'ai fini de faire mon travail, on peut passer à la suite. Et là, je viens de répondre à une requête, un petit peu comme je l'aurais fait sur un serveur web où en entrée, j'aurais eu une requête ici en disant bah, écoute, renvoie-moi telle page. Et puis j'aurais regardé quels sont les paramètres envoyés dans la requête HTTP. J'aurais fait mon traitement de renvoyer telle ou telle page. Et puis à la fin, je renvoie la réponse et j'indique que tout est terminé. Voilà, c'est vraiment une notion assez géniale pour faire des petits services à disponibles de tous sur une machine. Et puis alors, maintenant, nous allons voir comment l'intégrer dans une application. Donc, première chose à faire, il faut déclarer cette task dans un manifeste d'application. Donc là, je l'ai mis à l'intérieur de la deuxième application. Et regardez, il y a une section bien particulière dans laquelle je l'ai rajouté. Ici, dans les extensions, j'ai une extension de type Windows App Service avec un point d'entrée qui sera le nom finalement de ma task. Vous marquerez Windows Demo Service Calculator Service. C'est ce que vous avez indiqué ici. Windows 10 Demo Service Calculator Service. Et puis, ça, c'est le type d'extension que je veux rajouter, donc de type App Service. Et puis, je vais lui donner un nom en clair, donc Calculator Service, qui me servira à l'invoquer. Voilà, ça, c'est pas plus compliqué. Avec cela, j'ai déclaré un service. Maintenant, comment l'appeler depuis une application? Je vais retourner dans le launcher. Et à la fin du launcher, j'ai défini une façon d'interagir avec ce service. Donc là, sur l'appui d'un bouton, je vais faire en sorte d'instancier une connexion à cet app service, un app service connection. Je définis quel est le package family name qui contient ce service. Et puis, je donne le nom du service que je vais appeler. Ensuite, il me suffit d'ouvrir la connexion avec ce service, de vérifier si la connexion est valable, autrement dit, est-ce que le service est bien défini sur la machine, est-ce qu'il est accessible? Si oui, alors je vais préparer le jeu de données que je vais lui envoyer. Ici, vous voyez un message de type value set en indiquant le type de service, donc là, addition ou soustraction, les deux paramètres que j'ai envie de saisir, et puis je vais invoquer le service. Donc là, je fais un send message async avec les paramètres. Au retour de cette méthode, le service se sera exécuté, ma requête aura été traitée et il m'aura renvoyé le résultat ici dans cette réponse. Si cette réponse est positive, si elle s'est exécutée avec succès, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer le message, donc encore une fois un value set, un dictionnaire qui contient des clés, des valeurs, et récupérer ce que le service a bien voulu m'envoyer, ici en l'occurrence un résultat que je peux afficher. Encore une fois, extrêmement trivial. La partie un tout petit peu délicate est ici. Pensez à bien utiliser un package family name correct, donc celui de l'application appelée. Et puis ici, donnez bien le service que vous avez défini dans le manifeste pour être sûr d'appeler le bon service. Voilà, testez bien à chaque fois le retour des fonctions parce que il pourrait s'avérer que vous ayez oublié de déclarer quelque chose correctement et donc, par exemple, à l'ouverture de la connexion, que vous ayez un message d'erreur. Voilà, donc grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir développer des API dans vos applications et les rendre indispensables pour d'autres développeurs d'applications et donc générer comme ça de l'usage pour votre service. Tout au long de cette série, nous avons exploré des exemples. Comme toujours, ceux-ci sont disponibles à l'intérieur d'une démo qui s'appelle la Windows 10 SDK Demo, disponible sur GitHub avec 100% du code source, avec une licence Apache 2.0 pour vous permettre de réutiliser complètement le code comme vous le souhaitez. Et puis, le fait de le déposer sur cette plateforme communautaire GitHub vous permet d'effectuer des suggestions et voire même de contribuer. Donc, ça a été réalisé vraiment pour que vous puissiez mettre les mains très rapidement dans le code et expérimenter au plus tôt les API de Windows 10. Donc, n'hésitez pas, forquez et amusez-vous bien avec cette démonstration. Alors, ce cinquième module de communication entre applications, très riche et vraiment très prometteur, est maintenant terminé. Je vais vous inviter à voir un sixième module, un module un petit peu bonus, dans lequel j'ai regroupé un certain nombre de trucs et astuces, de choses qui sont peut-être pas majeures dans le système d'exploitation, mais vraiment très pratiques et que je vais vous inviter à utiliser. Donc, rendez-vous tout de suite pour le sixième module.